France Culture.
Beaucoup de choses m'amusent, beaucoup, même des choses extrêmement graves parfois. Je trouve ça tellement drôle de voir que des gens vont divorcer, qu'ils vont se marier, qu'ils vont s'aimer. C'est terriblement drôle parce que finalement, on se demande s'ils savent ce que ça veut dire, s'ils ont une idée de ce qu'ils font. Tout le monde s'est laissé prendre au jeu et ça m'amuse follement.
À l'école, ce jour-là, notre maître avait passé la matinée à nous raconter un épisode fort intéressant de la vie de nos ancêtres les Gaulois. Un régal. La tribu des Gaulois, dirigée par Vercingétorix, vivait dans la plaine. Quelques kilomètres plus loin, c'était le village des Romains. Son chef César possédait une longue vue magique qui lui permettait de voir le monde entier.
J'essaye de jouer de l'orgue, du saxophone, de la basse, enfin toutes sortes d'instruments, dont certains avec un petit succès d'ailleurs. Mais aucun de ces instruments ne s'est emparé de moi autant que la guitare a réussi à le faire.
France Culture.
La série musicale. Zoé Sfez.
Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre de tous les récits, de tous les hommages. Parfois, ils sont tout à fait du une heure de radio sur la musique. Et en musique, c'est la série musicale. Bienvenue. Il est des artistes dont l'œuvre fonctionne un peu comme une boussole secrète. On ne la consulte pas assez souvent, mais elle continue de vibrer quelque part. Elle agence le monde. L'œuvre de l'inoubliable Francis Bébé fait partie de celle-ci. La figure de cette espèce d'honnête homme, au sens de renaissance du terme, au savoir et aux expérimentations musicales infinies, fonctionne comme un éclaireur dont la lumière a beaucoup marqué ceux et celles qui l'ont croisé et manque clairement à ceux et celles qui ne le connaîtraient pas encore ou seulement pas morceau parce que Francis Bébé et sa musique ont eu mille et un visages. 25 ans après sa disparition en 2001, le label African Seven publie une compilation géniale, Trésor Magnétique, qui ferait un merveilleux cadeau de Noël. C'est une suggestion, comme ça. Où l'on retrouve 20 titres seulement, mais 20 titres importants, dont plusieurs inédits, concoctés par ce musicien monde, né à Douala, au Cameroun, passé par l'UNESCO, par le journalisme, par la littérature, par l'ethnomusicologie, et toujours revenu à cette intuition assez simple. La musique est un terrain d'enquête, voire le terreau de constitution d'une identité. Derrière ces satires irrésistibles, ces synthés bricolés, tout ce qu'on a appelé plus tard les bébérismes, Francis Bébé a inventé une manière de penser et de sonner, de faire sonner l'Afrique à l'échelle du globe entier, de tisser Bach avec l'arc à bouche, la mélancolie avec la transe dans sa guitare, une guitare fondamentale car elle réinvente et elle retranscrit le lien fou avec l'Afrique, l'humour avec la mémoire, une œuvre qui n'a jamais cessé d'avancer et de se recréer en permanence avec tellement d'intelligence et d'élasticité qu'il va être très difficile, et on en souffrira, de faire le tour, non même pas de l'œuvre, mais même des ambitions, de l'incroyable Francis Bébé, une émission fatalement subjective et comme toujours non exhaustive dans la série musicale sur France Culture.
Oh,
Come into the world, my child. Awake into life, my child. Life is good, you'll see. Come into the world, my child. All of us are here, awaiting you, and the whole forest will burst into applause and leap for joy as soon as you're born. The whole forest is expecting you. You can see the panther clad in its finest coat, and the lion, King himself, wearing a brand new mane to welcome you. Come into the world, my child. Awake into life, my child.
Viens au monde, mon enfant, viens, la forêt t'attend. C'est l'un des petits chefs-d'œuvre de Francis Bébé que vous pouvez découvrir, qui ouvre cette compilation parue en cette deuxième partie de l'année 2025 chez le label Africa Seven Forest Nativity, qui fait partie des sons probablement éternels concoctés par un Francis Bébé, dont vous entendez l'immense créativité, cette capacité à vous plonger immédiatement dans une langueur, une ambiance, cette capacité aussi à utiliser toute une foule d'instruments, à chanter dans plusieurs langues, beaucoup de langues, mais ici en anglais. Un petit chef-d'œuvre qui montre bien sa capacité aussi de synthèse. Rien ne prédestinait Francis Bébé, qui a eu un rôle, on peut le dire, fondamental dans la recréation, la réinvention d'une identité musicale africaine, pensée, pensable, écoutable, aussi bien au Cameroun, le pays qu'il a vu naître, que partout, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Europe, aux États-Unis, continent qu'il a arpenté en qualité de journaliste, puis de diplomate, membre éminent de l'UNESCO. Rien ne prédestinait ce Francis Bébé, finalement, à ce destin, qui est un destin... d'amoureux de la musique, d'homme en lutte, et qui va s'exprimer à travers un voyage musical dont parfois on peut douter qu'il émane en fait du même homme. Francis Bébé, peut-être l'avez-vous croisé dans son œuvre de musique satiriste, peut-être avez-vous découvert ses longues balades extrêmement hypnotiques, ou au contraire, l'avez-vous découvert sur des makossa électronisants concoctés à la fois à la guitare, au sansa et avec des petits claviers synthétiques extrêmement expérimentaux? Peut-être ne savez-vous pas qu'il s'agit du même homme, cet homme qui naît dans une famille de plus de 10 enfants à Douala en 1929.
Jimmy's song
Vous entendez Patrice Bébé chanter en Douala, petite chanson apparemment enjouée qui raconte le retour de la pêche des pirogues. On est au Cameroun. Mais Obia, méfie-toi à qui tu confies tes secrets. C'est une allusion voilée évidemment à la situation coloniale qui est celle dans laquelle naît Francis Bébé. Petit dernier d'une famille de plusieurs enfants, sa mère meurt en le mettant au monde. Famille d'un pasteur, son père est pasteur, et c'est un pasteur pauvre qui a fait lever de pauvreté et qui reste toujours extrêmement proche de ses ouailles. Un homme qui lui fait écouter des cantates et de Bach et du Handel en permanence et se méfie de ce voisin qui vit près de chez eux et qui lui joue les instruments traditionnels du Cameroun et notamment le sansa, ce petit lamellophone dont il sera beaucoup question. Une enfance portée, aidée par des frères aînés qui ont parfois 15 ans de plus que lui et notamment l'un d'entre eux, Marcel, qui sera comme une espèce de deuxième père, une figure brillantissime, puisque c'est un garçon qui va très vite obtenir une bourse pour aller étudier à Paris. C'est dans son sillage, et finalement avec ce modèle presque inatteignable, ce modèle d'homme sérieux et plus tard très engagé politiquement, ce qui lui coûtera la vie, que Francis Bébé finalement se construit. Francis Bébé qui se construit aussi avec des flous, puisque de cette enfance au Cameroun, lui reste une date de naissance qui n'est pas tout à fait la sienne, et bien d'autres éléments légèrement flous qui n'empêcheront pas de devenir l'homme fou qu'il est.
Je crois que nous étions entre 10 et 13 enfants. J'ai jamais su exactement parce que je savais compter jusqu'à 10.
Oui.
Mais au-delà, ça me posait des problèmes.
Oui.
Et comme à l'école, je voulais rien apprendre, c'était encore plus grave. Mais enfin, nous étions très nombreux à la maison. Aujourd'hui, je me demande comment mon père et ma mère faisaient pour nous nourrir. Ça reste un mystère pour moi.
Oui. Vous avez eu très faim, hein?
Très faim.
Oui.
Très, très faim. Vraiment, j'étais maigre avec un gros ventre. J'avais très faim. J'ai eu faim. Mes frères aînés, qui avaient entre 15 et 25 ans de plus que moi, voulaient que j'aille à l'école. Ils pensaient que c'était bien pour moi. Et pour entrer à l'école, il fallait que j'aie un certain âge. C'est pas un certain âge, mais je veux dire, il fallait avoir 12 ans.
Oui.
10, 12 ans. C'était la loi de ce temps-là, de ce temps de la colonisation. Les enfants noirs ne pouvaient pas aller à l'école avant l'âge de 10 à 12 ans parce qu'on estimait que leur cerveau n'était pas encore bien formé pour encaisser tout ce que l'école allait fourrer dedans.
Et l'un de mes frères aînés a un peu falsifié mon âge comme ça en disant il est né le 15 juillet 1929. Bon, en réalité, je crois que je suis né plutôt le 15 juillet 1934 ou quelque chose comme ça, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Mais entre-temps, j'ai pu entrer à l'école grâce à cette tricherie.
Francis naît dans une famille très religieuse, famille de pasteurs, où on écoute beaucoup de Bach. Bach va beaucoup jouer, hein. C'est aussi l'une des raisons qui explique cette synthèse, cette capacité à s'intéresser à tout qu'on trouve chez Francis. Francis qui va donc, dans le sillage de son frère aîné Marcel, obtenir lui aussi une bourse, débarquer à La Rochelle, devenir interne au lycée, commencer des études de sciences à Paris avant de changer son fusil d'épaule pour étudier l'anglais. Dans l'effervescence d'un moment où le début du frémissement des indépendances commence à se faire sentir, il veut apprendre à faire de la radio. Il va se former au studio-école de la Sopharum Okora, fondée par Pierre Schaeffer, qui est une entité qui a beaucoup compté dans l'histoire de notre maison, qui va devenir plus tard RFI. Et il passe quelques mois, notamment, aux États-Unis. Il découvre New York, le jazz, le racisme, évidemment, dans un pays encore très ségrégationniste. Mais un jour, alors qu'il est près d'un lac, il y entend ça à la radio. C'est Andrés Segovia, un très grand guitariste classique, qui joue une chaconne de Bach, cette musique de Bach qu'il connaît si bien, transcrite à la guitare. Or, la guitare, il y en avait bien une dans leur maison au Cameroun, personne n'en jouait. Mais c'est un instrument presque talisman, un instrument fondamental que Francis Bébé va avoir à cœur d'explorer, de se mettre à apprendre en autodidacte, mais surtout de raconter à quel point il est un lien, il est un instrument africain depuis des siècles et des siècles. C'est ce récit d'ailleurs que fait sa fille Kidi Bébé dans un ouvrage roman, biographie romancée de son père, Mon royaume pour une guitare. Quand il revient à Paris, en France, il devient journaliste reporter et fréquente la grande effervescence qui a lieu à Paris, puisque à cette époque-là, les étudiants africains se regroupent au sein d'associations, elles-mêmes réunies dans une fédération qui organise des activités, des camps de vacances où on va croiser la plupart des grandes personnalités qui non seulement vont avoir un rôle dans les indépendances de leurs pays respectifs, mais aussi de la création de la littérature, comme l'écrivain Mongo Betty et surtout le tout jeune Manu Dibango. Laissez-le vous raconter l'ambiance.
Il y avait le tabou, il y avait le club, il y a le Saint-Germain-des-Prés avec tout ce que ça comporte. Il y avait le L'Orientais avec les Claude Luther, il y avait les Ciné-Béchettes. On a connu tout ça, cher ami. Alors c'est une... Boris Vian de l'autre côté aussi, évidemment. Ce qui fait que nous avons connu une époque extraordinaire. Nous nous sommes arrivés là à 15-16 ans et on tombe dans cette France d'après-guerre, amoureuse de la vie, amoureuse de la culture, amoureuse de jazz, amoureuse, et aussi déjà le Brésil était là, la samba était là, le mambo était là avec la musique cubaine. Et pour ceux qui aimaient la musique, c'était un terrain incroyable. Francis nous apprenait des choses. Il faut dire que le blues, le fameux blues, les 12 mesures du blues, c'est Francis Bébé qui nous les a appris, parce que on écoutait le jazz, on savait pas, on connaissait pas les règles, c'était la mode, bon, on écoutait comme tout un chacun, on dansait beaucoup plus qu'on écoutait d'ailleurs. Mais nous qui étions musiciens, on cherchait à connaître les règles. Alors Francis nous a expliqué exactement les 12 mesures du blues, la signification de ces 3 fois 4 mesures, qui sont importantes, qui sont la base même de la musique américaine, donc du 20e siècle. Et donc, à travers le blues, nous avons connu Armstrong sur les St. Louis Blues, on a connu le Duke Ellington, et lui, il était déjà beaucoup plus cultivé que nous. Puis il était fort en harmonie parce qu'il jouait la guitare quand même. Moi, je ne jouais pas encore du saxo, je n'avais pas les moyens, donc avec ma mandoline, j'essayais de le suivre. Wopakata, Aléa. Idiba ibusiwa, esewe bidibidi, esewe bidibidi. Osi utape boso, ombwa na ipasi ne pasi ombwa. Bondi ese itele nonte bile mai. O madangwa tengeya, o dangwa londo kamoto, setona boloy, boloy. O sidimbe ya pona, o kusi minam na minam songele. Njan pepe nukusi misimakawa, langwa. O idimbea, o idimbea na wande. Dibake no ilwana bulungi wasu Oidimbea obina Wende bisoka nu musina Nunja otesebolo olondo Oidimbea disimana pebila Dibimbi kwata wone Disengi mwenge mandolo Mwene kombo ilongino Nampungu musibepe umate Naritele de misoma sujene mwaye Yasona jale jene mwaye Disi ya bendi suba uname
Idiba, un morceau que vous connaissez peut-être mieux dans cette version. C'est une version chantée par Malu Dibango. Mais en réalité, c'est le grand titre, l'un des premiers titres que Francis Bébé va composer, publier, car tous les deux, Manu Dibango et Francis Bébé, jouent ensemble dans un petit trio, montent sur scène, jouent des congas, du banjo. Sachez qu'Idiba, qui est sorti début des années 70, c'est sans doute le tout premier morceau franchement makossa. Juste avant Soul Makossa de Manu Dibango, il n'aura pas le même succès, puisque je vous rappelle que Soul Makossa, qui va être repris par des DJ new-yorkais, va lancer d'une certaine manière la disco, mais il va quand même bénéficier de ses retombées. On est dans les années 70, mais nous n'en sommes pas encore là, car tandis qu'il devient vraiment un homme, à la fois après avoir été reporter, très engagé dans la radio, qui commence à s'intéresser à tous les mouvements d'indépendance, qu'il épouse sa femme, Madé, elle aussi camerounaise, qu'il va aller passer pas mal de temps au Ghana, ce pays qui a lancé finalement le mouvement des indépendances pour y participer à la création d'une radio nationale, eh bien, Francis Bébé va intégrer l'UNESCO, justement parce que son travail sur la radio a beaucoup impressionné, devenir l'un des artisans de l'évolution du monde, pense-t-il, pour que tous les peuples sans distinction puissent accéder à l'éducation, à la science, à la culture. Et donc il est un homme de l'UNESCO le jour, ce qui va lui permettre aussi dans ce travail de s'intéresser à absolument toutes les musiques africaines, au-delà, hein, plus largement que simplement celles dont il est issu. Il continue à écumer les bars de jazz le soir et surtout à travailler sa guitare. Cette guitare qu'il apprend en absolu autodidacte, mais dont il va devenir un véritable virtuose. Il se met à composer ses morceaux, si bien qu'un jour, en 64, le Centre culturel américain l'invite à produire un récital. Écoutez sa fille qui dit bébé raconter ce moment.
Ce qu'il y avait de remarquable, c'est que on voyait pour la première fois un Africain jouant de la guitare africaine classique. Voilà. Devant un public qui, semble-t-il, est resté bouche bée parce que c'était une manière d'adapter sa propre culture à un instrument qui aussi appartenait à cette culture depuis la présence des Portugais en Afrique, qui remontait quand même au XVe siècle. Mais malgré tout, on n'avait encore jamais vu un compositeur présenter son travail, un compositeur africain composé sur une guitare sèche.
Black Tears, une pièce monumentale de 16 minutes qu'il a écrite en 63 en hommage aux hommes et femmes de bonne volonté qui ont manifesté en 63 aux États-Unis pour les droits civiques et la liberté à Washington. Il y a trois parties dans ce très long morceau qui est vraiment pensé comme une composition classique avec ce tout début. Et dans une dernière partie, une africanisation finalement de la guitare, cette guitare très makossa finalement. Il va la faire sonner complètement différemment avec du rythme sur les cordes, frapper la caisse de résonance. Une pièce extrêmement exigeante qui était destinée à prouver que la musique africaine n'était pas uniquement une musique à danser, évidemment. Et qu'elle avait des choses à apporter à littéralement tout le monde. C'est un morceau très important dans la carrière de Francis Bébé qu'il interprétera lorsqu'il sera invité en 93 à jouer au Carnegie Hall. Excusez du peu. On est donc en 64 quand il fait ce premier récital à la guitare. Or, il est déjà quelqu'un qui pratique d'autres types de musique. Il va continuer à connaître une grande ascension à l'UNESCO, dont il deviendra en 74 le directeur en charge de la musique. Et donc vraiment un homme qui aura eu affaire à tout ce que la connaissance musicale apporte de mieux dans cette UNESCO baptisée à Paris. Il s'est aussi, hein, by the way, lancé en littérature, lui qui dit qu'il a apprivoisé la machine à écrire comme il l'aurait fait d'un instrument, comme un clavier. Publie Le fils d'Agatha Moudio en 67, qui est couronné par le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire. En 74, il fait le grand saut et va, alors qu'il a 5 enfants, quitter ses activités pourtant bien rémunératrices à l'UNESCO pour investiguer concrètement les trois choses qui lui passionnent le plus. La littérature, le journalisme, évidemment, la musique. Vous allez le voir, vous allez l'entendre. Il aura toute sa vie à peu près abordé tous les instruments, du sansa à la flûte, du saxo, à toute une série de synthés. Mais la guitare reste, comme il le dit, l'instrument qui s'était emparé de lui. Il a avec cet instrument une relation complètement folle. Vous allez l'écouter ici, interviewé dans les années 80, raconter ce que peut et ce que doit la guitare.
Les gens ne se rendent pas compte de la difficulté de l'instrument. Pour moi, je pense que c'est l'un des plus difficile, et c'est pas étonnant qu'on ne puisse pas jouer de tous les styles à la guitare. C'est vraiment inépuisable parce qu'on trouve toujours des choses, beaucoup, beaucoup de choses. À un moment donné, au bout de 15 ans de recherche, je pensais que je n'allais plus rien trouver. Non pas qu'il n'y ait plus rien à trouver, mais que moi j'étais épuisé. Et puis un jour, j'ai entendu des bruits de crécelles et la guitare me les a restitués. Par exemple, ce bruit-ci. Que la guitare fait, c'est un peu comme la crécelle de la fête.
Oui. Hein?
Je devais être mère, le palmier florissant de ta vieillesse. Je te voudrais rendre l'ivresse de tes jeunes années. Je ne suis plus que ton enfant endolori, et il se tourne et retourne sur ses flancs douloureux. Je ne suis plus qu'un petit enfant qui se souvient de ton sein maternel et qui pleure. Reçois-moi dans la nuit qu'éclaire l'assurance de ton regard. Redis-moi les vieux contes des veillées noires, que je me perde par les routes sans mémoire. Mère, je suis un soldat humilié qu'on nourrit de vieux mille, de gros mille. Dis-moi donc l'orgueil de mes pères. Il y a d'autres aspects de mes recherches qui visent beaucoup plus la musique traditionnelle et ce qu'elle peut apporter à la guitare ou inversement ce que la guitare peut lui apporter. Mm-hmm. Par exemple, cette introduction à un poème de Bernard Dadier, Ode à l'Afrique, c'est la guitare seule qui pouvait me permettre de la jouer comme ça.
accorderai mon luth pour égrener dans le soir tes litanies au fil des heures quiètes. J'apprêterai mes doigts pour moduler sur la cora des griots habiles, au long des sentes et des méandres, l'arc au point. Vous voyez, par exemple, oui. c'est la guitare qui n'est plus la guitare classique. Ce n'est plus l'instrument européen, c'est l'instrument qui joue vraiment le chant des baoulés, par exemple, oui. cette musique-ci.
Cette guitare, mais aussi cette voix de Francis Dédé, qui, vous allez le voir, change de saveur, change de positionnement, qui ne timbre jamais pareil, qui peut parfois rapper, parfois chuchoter, parfois défaillir volontairement. Cette voix parlée sans accent, dont il était si fier, mais dans laquelle il peut introduire des accents quand il a quelque chose à dire dans une chanson. Vous entendez sa versatilité, sa capacité à aller puiser, à aller chercher, rechercher inlassablement. Francis Bébé, qui, à partir de ce choix complètement fou, hein, de démissionner pour se lancer dans la musique alors qu'il a déjà 5 enfants et une bonne quarantaine d'années, va être évidemment décisif. Tout ça se passe dans son salon à Paris. Il commence à éditer ses propres disques, les disques Francis Bébé, puis Osileka Records ou encore Amaya Music, où il produit sa propre musique, mais évidemment aussi d'autres artistes qu'il aimerait que le marché international connaisse mieux. Il continue à voyager, notamment grâce à tous ces réseaux de l'UNESCO. Plus tard, il rencontrera John Williams, pas le compositeur, mais un homme qui est sans doute l'un des plus grands guitaristes classiques au monde. Sa cavatine dans Voyage au bout de l'enfer l'a rendu hyper célèbre. Immense guitariste classique formé justement par Andrés Segovia, celui qui avait découvert à la radio Francis Bébé. Il va, à partir d'un certain moment de sa vie, oser se lancer dans d'autres registres que la guitare classique, notamment en reprenant du flamenco, produire une œuvre complètement démentielle qu'on vous invite à découvrir, extrêmement ouverte. Vous allez l'écouter, c'est Francis Bébé qui l'a décidé à se lancer.
I suppose the initial inspiration came from Francis Bébé.
Celui qui m'a inspiré, c'est Francis Bébé. Il m'a encouragé. Il m'a dit, mais vous savez que la guitare, c'est l'instrument le plus populaire en Afrique. J'ai dit, quoi ? Il dit, mais oui, je savais que tous les pays, et qu'en Afrique de l'Ouest, il y avait des traditions. Mais il m'a dit, c'est pas populaire qu'à certains endroits en Afrique. C'est une matrice. Et moi, j'étais très impressionné parce qu'il est un auteur incroyable, un ethnomusicologiste, et qu'il maîtrise à merveille ce sansa, vous savez, cette espèce de petit piano de poche qui existe en Afrique. C'était un homme incroyable, c'était un musicien vraiment fondamentalement passionnant. Et il m'a dit, mais moi, la première chose que j'ai touchée dans ma vie, c'était une guitare classique dans les années 30 au Cameroun, parce que son père était pasteur. Et je me suis dit, mais c'est complètement dingue qu'en réalité, cet homme qui, pour moi, était l'un des pères de la musique africaine moderne, venait de la guitare. Ça m'a complètement libérée.
Thank you.
La première fois que j'ai vu une sansa, elle était tout simplement posée chez nous sur un meuble de la salon salle à manger familiale, un espace qui se transformait quasiment tous les jours en studio d'enregistrement pour notre père. Et l'objet tenait d'ailleurs plus de la boîte que de l'instrument écrit Patrick Bébé, l'un des fils de Francis Bébé qui est devenu à son tour musicien. À l'époque, comme mes frères et sœurs, dit-il, j'avais appris le piano et j'avais vraiment du mal à comprendre comment on pouvait supporter des sonorités pareilles. Et la vérité, c'est que tout cela, cet intérêt de notre père pour d'autres sons, ne m'intéressait alors pas. Francis Bébé, après avoir tout joué avec la guitare, parmi toute cette grande période d'expérimentation où il va vraiment s'intéresser à tous les instruments, va consacrer de très beaux albums à la sansa avec des tubes comme ce Sansa Nocturne ou un Sansa Tristesse, aujourd'hui repris par beaucoup de musiciens de jazz. Évidemment, cette conscience finalement, cet intérêt pour tout ce que l'Afrique avait à offrir musicalement, Francis Bébé finalement le disait, il l'a vécu, nourri, renforcer tout cela, c'est vécu justement parce qu'il est parti.
Dans tout Africain, il y a une Afrique qui est là, qu'on ne voit pas toujours, qu'on ne sait pas voir parce qu'on n'a pas assez de recul par rapport à cette Afrique-là. Et que du jour où on fait le grand geste qui consiste à prendre un avion, à partir pour un autre continent, on commence à apercevoir. Ça, c'est très très bon. C'est exactement comme les cosmonautes qui voient la Terre en entier quand ils sont dans l'espace. Et ce recul fait qu'on se rend compte, en voyant cette Terre, d'abord, qu'on l'aime beaucoup, et d'autre part, qu'on la porte en soi, parce que finalement, on arrive à se situer dedans. On voit la Terre et on se dit, mais oui, bien sûr, mais me voilà, je suis là, je suis à tel endroit. Et c'est comme ça qu'elle s'installe. Et à ce moment-là, elle commence à prendre des proportions nouvelles. En ce sens que ce qui était simplement latent devient conscient. Et à partir de cette prise de conscience, j'allais dire cette crise de conscience parfois, parce que... quand on a eu le temps d'étudier Descartes et autres, oui. On finit par se demander s'il s'agit d'une prise de conscience ou d'une crise de conscience. Mais à partir de ce moment-là, on arrive à habiter l'Afrique, même sans y être.
Agatha, tu mens. Je te dis que tu m'as menti. Ah oui, tu m'as bien entendu, hein? Moi-même, ton mari, est-ce que je t'ai demandé de me mentir? Hein? 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 Ton enfant, ton fils là, tout le monde voit bien que ce n'est pas le mien. Mais comment peux-tu venir me raconter n'importe quoi, Agatha? Tu es noir des pieds à la tête, comme moi. Alors, comment as-tu pu mettre au monde un enfant blanc et qu'il soit de moi?
Agatha, ne me mens pas. Agatha, ne me mens pas. Ce n'est pas mon fils, tu le sais bien. Ce n'est pas mon fils, on le voit bien. Ce n'est pas mon fils, même si c'est le tien.
Agatha. Tu crois que je suis complètement fou, hein? Écoute, tu as bien le droit de me verser encore un peu de vin de palme. Et non pas de me mentir. Non, 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 non. Ton enfant là, ça fait plus d'un mois que l'enfant est né. Et jusqu'à présent, il n'a toujours pas décidé de prendre la couleur locale. Et toi, tu soutiens que c'est mon fils à moi. Et Agatha, vraiment, quel est ce gros mensonge que tu viens me dire comme ça en plein jour devant tout le monde? Eh, verse-moi à boire, verse-moi à boire. Ça au moins, c'est une bonne affaire.
Agatha, ne me mens pas. Agatha, ne me mens pas. Ce n'est pas mon fils, tu le sais bien. Ce n'est pas mon fils, on le voit bien. Ce n'est pas mon fils, même si c'est le tien.
Agatha, l'un de ces sons de satiriste dont Francis Bébé a eu le secret, aux côtés d'une chanson très célèbre, La Condition Masculine. Ces chansons où il se transforme en chroniqueur plein de second degré et où, voilà, c'est des chansons qui vont devenir célébrissimes aussi bien en France que surtout évidemment au Cameroun et dans le reste de l'Afrique. Il devient une superstar avec ces chansons qui sont extrêmement drôles, extrêmement incisives. La Condition Masculine raconte comment un mari génial est persuadé qu'on a changé le cerveau de sa femme, Susanna, avec les idées d'émancipation de la MLF, donc une manière de tenser le machisme local. Dans Si les Gaulois avaient su, une très belle parabole des esprits évidemment colonialistes des Français. Et dans ce Agatha, cet enfant apparemment blanc, évidemment, vous l'avez bien compris, hein, il n'y a rien de léger derrière cette chanson hyper drôle, très dansante. Il y a en réalité une réalité très concrète qu'il avait abordé dans son premier roman, son roman Le fils d'Agatha Moudio. Il parle évidemment des pratiques extrêmement violentes, des problématiques sociales qu'il y avait dans le Cameroun colonial. Dans ce roman, Le fils d'Agatha Moudio, il suivait Mdemba, un pêcheur traditionnel de Dakar, qui tient tête à un groupe de blancs qui était venu chasser le singe, et Agatha, la femme qu'il aime et qu'il convoite en seconde noce, est mal réputée car elle fréquente trop d'Européens. Et à travers cette histoire d'amour un peu contrariée, il renvoie dos à dos les Africains trop traditionnalistes et les Blancs prétendument civilisés. Donc toujours sous couvert de faire rire et de faire danser, Francis Bébé perpétue cet engagement par la culture, on va dire, qui reste un engagement politique. Son frère, qu'il a perdu d'avoir été trop torturé justement dans le combat des indépendances, reste évidemment un modèle pour lui. Cette idée finalement que les sauvages, vraiment, ce ne sont pas ceux qui ont été désignés en tant que tels, Francis Bébé va avoir à cœur de le raconter, de le dire partout, tout le temps en musique, notamment avec l'utilisation par exemple récurrente de la flûte pygmée, alors qui n'est absolument pas issue de cette culture, dans sa musique. Écoutez-le ici dans une archive expliquer le fonctionnement musical de cette fameuse flûte.
It's a bamboo flute.
C'est une flûte en bambou,
only one note,
mais qui ne produit qu'une seule note.
That's the only note.
C'est la seule note qu'on peut en tirer.
But the pygmies who are,
mais les pygmées,
the inventors
qui l'ont inventé,
are clever people.
Sont des gens extrêmement intelligents. Et j'ai beaucoup de joie à vous en parler aujourd'hui. Parce que vous savez, quand j'étais petit, à l'école, au Cameroun, on nous disait que les pygmées étaient des sauvages, juste parce qu'ils vivent dans la forêt. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que vous vivez dans la forêt que vous êtes des sauvages. Les gens sauvages que moi j'ai rencontrés, ils ne vivent pas vraiment dans la forêt, ils vivent plutôt en ville. Mais c'est un autre problème. Les pygmées ont inventé une technique musicale absolument fabuleuse qui consiste à entrer en conversation avec leur instrument. Vous demandez à la flûte de vous parler et vous lui répondez. Et Toute la musique qu'on peut créer, et elle est très puissante, est une conversation entre l'homme et son instrument.
Le soleil est là, c'est lui qui m'apporte la vie. Le soleil, c'est toi qui dissipe tous mes ennuis. Et je chante, yéhi, 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 yéhi. Et je chante, yéhi, 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 yéhi. Les années, les mois n'ont pas d'importance pour moi. L'essentiel, c'est toi qui dissipe tous mes soucis. Et je chante, yéhi, 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 yéhi. Et je chante, yéhi, 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 yéhi. Toute la journée, je me balade dans la forêt. Mais où que je sois, je n'ai de pensée que pour toi. Et je chante, yéhi, 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 yéhi. Et je chante, yéhi, 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 yéhi. Vive la vie, quand le soleil est là, je chante, vive la vie. Vive la vie, quand le soleil est là, je chante, vive la vie. Vive la vie, quand le soleil est là, je chante, vive la vie. Vive la vie, quand le soleil est là, je chante, vive la vie. Vive la vie, quand le soleil est là, je chante, vive la vie. Vive la vie, quand le soleil est là, je chante, vive la vie. Vive la vie, quand le soleil est là, je chante, vive la vie.
La beauté merveilleuse de cette chanson qui introduit donc cette flûte pygmée. On va retrouver des arcs à bouche, des lamellophones, donc le sansa, mais aussi évidemment un homme qui bricole, qui est un autodidacte, qui est hyper curieux et qui va donc, vous l'avez déjà entendu, devenir un pionnier des espèces d'alliages électro avec des synthés qui bricolent tout seul dans son propre salon. Cette espèce de mélange, cette création d'un son qui ne cesse d'évoluer, qui est à la fois africain et global, cette espèce de bébéisme, c'est ce qu'on va donner comme nom, fait partie des vraies richesses qui vont vraiment construire un son africain à l'échelle globale. Écoutez Patrick Bébé raconter comment son père travaillait avec les synthétiseurs.
Il s'est lancé au milieu des années 70 à enregistrer avec plein de synthétiseurs, des boîtes à rythme. C'était un truc, mais, enfin, quasiment personne ne faisait ça à l'époque, et encore moins dans la musique africaine. Et lui, il a commencé ça. Ouais. Ouais, milieu des années 70, c'était, il faisait ça à la maison, dans le salon, pendant qu'on dormait, et dans la journée. Et avec, on avait sur la porte d'entrée un petit mot où c'était marqué ne sonnez pas SVP, au cas où quelqu'un viendrait, parce que il enregistrait tout, les micros étaient ouverts, et puis voilà, il fallait qu'il fasse sa prise.
Capacité absolument étonnante de Francis Bébé à nous transporter dans ce désert du Sahel avec ce son, vous avez entendu, granulé qui nous donne à entendre presque le frémissement du sable quand il est déplacé en plein désert et cette flûte électronisante au synthé qui figure une caravane, des dromadaires ou un serpent. Quelle puissance d'évocation chez ce bidouilleur génial qui restera jusqu'à la fin de sa vie, cet homme qui est capable en fait de produire à peu près tout type de musique, avec à chaque fois un propos. On vous invite à réécouter Bissau, Kinshasa, des ballades qui évoquent d'ailleurs la rumba congolaise, Salut, les pays qui prennent leur indépendance, et bien d'autres, mais on avait envie de se quitter avec l'un des chefs-d'œuvre de son dernier grand album, DBA, qui a été réédité en 2021. Écoutez-le, un Stabat Mater Dolorosa, version camerounisée du Stabat Mater, qu'il chante en douala, en anglais, en français, un hymne à la fraternité dont on a bien besoin.
Stabat Mater Dolorosa, Stabat Mater Dolorosa, Nyangwamuna Maria Temnandutu, Babo Momuna Nanyo Awonandutu. Stabat Mater Dolorosa, Stabat Mater Dolorosa, your sorrow speaks to mankind, telling of great love. En moi ta douleur résonne comme un cri d'amour, et ce cri me dit d'aimer toujours, même les gens qui sont différents de moi.
Francis Bébé qui nous met les larmes, Francis Bébé dont on vous invite à redécouvrir l'œuvre immense, hyper protéiforme, à lire les incroyables livres. Il a produit aussi bien des essais que de merveilleux romans. Merci beaucoup aux auditeurs, aux auditrices qui nous ont conseillé de nous intéresser à cette figure, et merci surtout à Kiddy Bébé, sa fille, journaliste, autrice notamment d'un excellent Mon Royaume pour une guitare, version romancée de la vie de son père, ouvrage finaliste du prix Psychologie, pour son aide précieuse pour cette émission. Merci à Thomas Joss, Laura Dutèche-Pérez et Raphaël Rousseau. À la semaine prochaine.